Chapitre 5e. Martin Dumas, oui ou non ? Le lendemain, le vieux Pietro et Ginetta se présentaient au dépôt pour voir le chevalier. Martin Dumas se trouvait également dans le vestibule du lugubre bâtiment. Pendant un assez long moment, on fit attendre le vieillard et la jeune femme. Martin Dumas se décida enfin à aller voir auprès des chefs de service si on permettrait la visite. Il revint au bout d'un moment et dit à la jeune fille « Hélas, je n'ai pas une bonne réponse à vous donner. » On refuse vraiment. On s'est montré inflexible. Vous avez bien dit, vous avez bien expliqué. Malgré toutes les raisons excellentes que j'ai pu fournir, on ne veut pas permettre l'accès auprès du prévenu. Ah, quelle sévérité, quelle cruauté! Le chevalier est tenu au secret absolu. Néanmoins, on lui a fait part de votre présence ici. Ah, on lui a dit. Il en a manifesté une grande joie. Il vous remercie infiniment de votre amabilité, de l'envoi que vous avez fait hier, des effets que je lui ai apportés de votre part. » Et Martin Dumas ajouta tout bas, « Il a trouvé ce qui était dans la cachette. »« Ma lettre ?» s'écria la jeune femme. Martin Dumas lui fit un signe de la main. « Chut, plus bas, chut !» Vous savez qu'en ce lieu, si les portes de prison ne rient jamais, les murs entendent toujours. » Il poursuivit. « Il vous est très reconnaissant. » Il a chargé la personne qui s'est mise en rapport avec lui de vous dire combien il avait été touché de tout cela. Et il vous envoie ses meilleures amitiés. La jeune fille se montra néanmoins désolée de ne pas voir son ami, et c'est le désespoir au cœur qu'avec le vieux Pietro, navré lui aussi, elle se décida, entraînée par Martin Dumas, à regagner sa voiture. Le lendemain, même démarche, la jeune fille se présenta encore. Elle avait écrit au procureur de la République, au juge d'instruction. Elle avait demandé la veille, dans la journée, audience au consul d'Italie, réclamant son appui afin d'obtenir au moins une dernière entrevue avec le chevalier. Elle essuya un nouveau et plus douloureux refus, et la porte lui fut irrémédiablement close. 2, 3 jours se passèrent. Ginetta se présenta ainsi chaque matin. Après avoir cherché dans la journée des appuis, avoir fait des démarches de tous côtés, avoir plaidé la cause de son bienfaiteur, n'épargnant ni ses peines ni ses pas, et témoignant de son dévouement affectueux et inlassable. Fatigué, épuisé par les larmes et par les démarches, les longues attentes dans les couloirs, elle revenait avec le vieux Pietro le soir dans la maison triste et comme abandonnée. Elle se mettait alors à prier pour celui qu'elle eût voulu délivrer, fût-ce au prix de sa vie. Martin Dumas, plusieurs fois, lui rendit visite, ne pouvant que l'encourager à être forte devant ses épreuves, et gardait quand même bon espoir. J'accompagnais, sur la demande de Martin Dumas, une fois mon ami chez le chevalier Fontis. Ginetta me remercia de cette visite. « Oh, monsieur, venez aussi, venez nous voir. Aidez-nous à supporter ces temps de souffrance. Faites que nous ne soyons plus si seuls, si abandonnés. Dans ce pays, hospitalier certes, et cordial grandement, mais où cependant nous sommes, le vieux Pietro et moi, étrangers, sans appui, sans personne, qui puisse nous venir en aide et nous guider. » Je dus promettre de venir assez souvent, et je m'offris pour accompagner la jeune fille dans les courses, les démarches qu'elle aurait à faire désormais. Un matin, comme je me disposais à sortir pour aller aux nouvelles, prendre l'air de Paris, savoir ce qui avait bien pu se passer depuis que le journal était tiré, vers le matin, préparer ma copie du soir, me mettre en quête de l'événement sensationnel que j'espérais chaque jour, je vis entrer chez moi, cigarette aux lèvres, dans un long par-dessus, mon ami Martin Dumas. « Mon cher ami, dit-il, nous allons déjeuner et faire ensemble, si vous le voulez bien, une visite chez le chevalier Fontis. » Le timbre de la voix de mon ami Martin Dumas me parut ce matin quelque peu changé. « Vous êtes enrhumé ? » lui demandai-je. « Pouah ! » fit-il légèrement. Il avait dans les gestes quelque chose qui n'était pas lui-même, quelque chose d'imprécis, d'indéfinissable, qui demandait pour être vu une longue habitude, une longue fréquentation, mais qui pour moi était assez apparent pour que je le remarquasse presque aussitôt. « Ah ça !» lui dis-je, « qu'est-ce que vous avez donc de changé aujourd'hui ?» Il me regarda et me dit « Moi, mais je ne vois point. » Tout en parlant, il se tenait le dos à la croisée, et je ne voyais en somme que sa silhouette, son profil se découpant en noir sous le clair du dehors. Il me demanda encore « Que trouvez-vous en moi de si bizarre que vous me regardez avec des yeux si grandement ouverts ?»« Je ne sais pas, mais est-ce que par hasard je serais le fantôme de moi-même, une apparition diabolique, un être fantastique? Est-ce que je suis sorti du plancher, tombé par la cheminée? Non, mais est-ce que ma cigarette n'est pas ma cigarette habituelle, sempiternelle, sans laquelle il semble que je ne puisse vivre? Je ne dis pas. Est-ce que ce ne sont pas mes longues mains, mes immenses jambes? Si, si! Est-ce que ça n'est pas mon nez proéminent dont on fait si souvent la caricature? Mon nez dont le seul aspect fait trembler plus d'un individu, vêtu en rôdeur ou déguisé en gentilhomme? En vérité, mon cher. Enfin, mon cher, n'est-ce plus Martin Dumas? N'est-ce plus moi? Je m'écriai. Je vous avoue, mon cher ami, que certes, je vous connais et que je ne vous reconnais pas. Vous êtes votre sosie, si je puis dire ainsi. Vous êtes Martin Dumas bis. Je n'y comprends rien. Martin Dumas se mit à rire et me dit « Croyez-vous que tout le monde puisse ainsi dire que Martin Dumas n'est plus Martin Dumas ? Non, sincèrement, il faut que moi vous connaître comme je vous connais pour ne pas vous reconnaître comme je le fais. Nous tombons dans la magie. Il y a quelque chose d'anormal. Ou bien c'est moi qui ai des yeux différents de mes yeux de chaque jour. C'est possible. Ou bien c'est mon ami Martin Dumas qu'on a changé. » Martin Dumas jeta un geste que je lui connaissais et qui cependant n'était pas le même, sa cigarette dans la cheminée et me dit « Mon bon Courville, il importe que pour tout le monde je sois toujours Martin Dumas, quand bien même je ne le serai pas, pour vous. » Je le regardais avec un étonnement croissant, me demandant ce que signifiait cette nouvelle transformation qui n'en était pas une, tout en étant une, et dont je ne devinais ni le but ni la raison. Car enfin, pourquoi Martin Dumas se déguisait-il en Martin Dumas? J'avoue qu'il y avait là un de ces problèmes inexplicables. Quand je l'eus bien regardé, bien analysé en somme, Martin Dumas se mit à rire de nouveau et me dit « Enfin, me reconnaissez-vous, oui ou non ?» Je fus forcé de dire encore une fois que je le reconnaissais tout en le trouvant tout autre. Alors Martin Dumas, se tournant, me prit par le bras, m'amena en face de la croisée, se mit bien dans le jour et me dit « « Regardez-moi bien. » Je le regardais. « Maintenant, je vais marcher devant vous. » Il fit quelques pas dans la chambre. « Maintenant, je vais prendre une cigarette dans mon étui. » Il fit comme il disait. Il alluma sa cigarette. Il fuma, comme faisait Martin Dumas, puis il me dit « Me reconnaissez-vous enfin ?» Après un moment de nouvel examen, je lui demandais « Avez-vous un frère jumeau ?» Au lieu de me répondre, il me mit la main sur l'épaule et me dit tout bas « Mon cher, n'allez pas plus loin. » Martin Dumas n'est pas le marquis Primo di Carmine Santucci. Martin Dumas n'est pas double. Martin Dumas est seul et unique au monde. Et il ajouta, je suis tout bonnement Philippe. Je demeurai bouche bée, les yeux ronds, les bras ballants, dans la pose d'un homme absolument ébahi. Il me dit, je suis Philippe. Philippe l'agent, Philippe le peintre, Philippe, enfin Philippe. Et comme je ne comprenais pas du tout, je m'écriai « Est-ce que Martin Dumas est Philippe ? Ou bien Philippe est-il Martin Dumas ? Car je ne sais plus vraiment à qui j'ai affaire. »« Martin Dumas est Philippe, » me répondit-il, et il m'expliqua. « Mon cher monsieur Courville, je suis pour vous Philippe, et il faut que pour le public, que pour surtout ceux que je n'ai pas besoin de nommer, il faut que je sois Martin Dumas. Mais vous l'êtes, mon cher, à ce point que même maintenant que vous me dites que vous êtes Philippe et non Martin Dumas, je ne sais pas si réellement vous êtes Philippe et pas du tout Martin Dumas. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais pourquoi cela? Le chef m'a dit, avant de faire quoi que ce soit, allez donc trouver mon ami Courville, qui est l'homme qui me connaît le mieux, avec qui j'ai le plus de relations, qui m'a vu le plus souvent, et faites Martin Dumas chez lui. Bien. Si Courville vous prend pour Martin Dumas, vous pouvez être en toute confiance dehors le Martin Dumas nécessaire. Eh bien, mon cher, vous avez grandement réussi. Et je dois vous dire que Martin Dumas lui-même ne serait pas plus Martin Dumas que vous. Alors il me dit, le chef vous charge d'une mission des plus importantes, et que vous seul pouvez remplir. Vous savez combien je lui suis dévoué, et avec quel plaisir je m'efforce de lui être agréable. Aussi n'a-t-il pas hésité à m'envoyer auprès de vous. Que faut-il donc que je fasse? Tout simplement ceci, il faut que vous agissiez avec moi comme si j'étais Martin Dumas lui-même. C'est entendu, rien de plus facile. Et je demandais, mais Martin Dumas, qu'est-il devenu? Philippe me dit, le chef en ce moment voyage. Il ne m'a pas défendu de vous apprendre son départ. Je puis donc vous annoncer qu'en ce moment il roule sur la route de Lyon pour gagner ensuite Marseille et filer vers un coin d'Italie que vous soupçonnez sans doute, vers la Sicile. Vous l'avez dit. Comme j'allais poser quelques questions à Philippe qui incarnait si bien la personnalité de Martin Numa, qui jouait admirablement son rôle, était entré avec cette perfection dans ce qu'au théâtre on appelle la peau du bonhomme, il m'arrêta d'un geste et me dit « Pour le moment, je n'ai pas à vous en apprendre plus long. Il faut que nous tentions un nouvel essai. J'ai besoin de votre concours afin de donner plus de poids à cette tentative. » Je répondis « Comme nous obéissons au désir de Martin Numa, je suis à vos ordres. » Philippe me dit « Nous allons donc nous rendre chez le chevalier Fontis. Nous allons voir le vieux Pietro et prendre des nouvelles de la jeune femme, Ginetta Maggio, qui n'a pu résister à tant d'émotions et depuis 2 jours n'a pu sortir. Est-elle souffrante? Oui, prise par la fièvre. J'espère qu'on nous recevra cependant, que nous pourrons voir la jeune femme, car je suis curieux de savoir si Philippe est aussi pour elle un Martin Numa complet. » Peu après, nous descendions la rue Lepic, suivis par un homme à moustache brune qui se tenait en faction non loin de ma demeure. Nous montâmes, comme toujours, dans un taxi qui passait en maraudant au coin de la rue Lepic et de la place Blanche, et nous filions bientôt vers Passy, vers la demeure du chevalier Fontis. Derrière nous, l'homme aux moustaches brunes était monté dans un second taxi et avait fait suivre notre voiture. En route, Philippe me dit « Savez-vous que nos ennemis sont très bien organisés, qu'ils sont très habiles, très forts et outillés aussi bien que nous ? » « Croyez-vous ? Ainsi, ils ont des espions qui ne quittent Martin Numa ni vous, qui sont autour de la demeure du chef, qui se trouve dans cette rue Lepic, de même qu'autour de la maison secrète de Martin Numa. Ils ont aussi des taxis comme nous, qui croisent presque au même endroit que les nôtres, qui, sans autre indication, sans signal, se mettent à suivre les nôtres, qui ne nous quittent pas, nous surveillent sans cesse. » Martin Numa a raison de dire que la victoire sur ces gens-là sera un triomphe. Ginetta se tenait dans une bergère, dans le petit salon où déjà nous étions entrés souvent. Nous ne pûmes apercevoir la scène lors de l'entrevue du chevalier Fontis avec la belle Focamore. Elle était souffrante, en effet, et le vieux Pietro tisonnait le feu dans la cheminée. Le vieillard et la jeune femme se tenaient là, parlant du chevalier, du char absent, rappelant des souvenirs d'autrefois, invoquant des jours où, comme aujourd'hui, on avait pleuré, on avait souffert, on avait attendu le retour de celui qui manquait encore, où l'on avait craint pour la vie du maître, du bienfaiteur, comme on redoutait aujourd'hui pour sa liberté. Ginetta tenait un gros livre de prières. Après avoir rappelé ainsi quelques souvenirs, elle lisait tout haut des pages du livre saint, et le vieux Pietro répondait comme à l'office. Ce fut lui qui vint nous ouvrir à la porte et avec joie nous amena auprès de la jeune femme. Ginetta vint à nous, les mains tendues, nous remerciant cordialement. Philippe, jouant son rôle de Martin Numa, dit à Ginetta « Reprenez, mademoiselle, votre place dans ce fauteuil. Restez comme vous étiez, ne vous dérangez en rien pour nous. Nous venions simplement prendre de vos nouvelles. » Ginetta nous dit « Le chagrin était plus fort que moi. J'ai dû rester ainsi depuis plusieurs jours. Je n'ai pu sortir, recommencer les démarches que je voudrais faire. » Mais avec un geste douloureux, elle ajouta « Hélas, ces démarches sont bien inutiles car je me heurte à un mur d'airain et je ne puis rien obtenir. » Elle demanda à Philippe « Mais vous, monsieur Martin Numa, n'avez-vous aucune nouvelle meilleure à me donner ? Le médecin m'a prescrit de la quinine, des fortifiants, je ne sais quoi encore. Tout cela ne me vaut rien du tout. Une seule chose me ferait du bien et me guérirait immédiatement, c'est l'annonce de la mise en liberté de celui que nous attendons avec tant d'impatience. » Philippe répondit « Mademoiselle, je ne puis vous donner de nouvelles qu'indirectement. »« Ah, mais vous en avez de récentes ? J'ai appris que le chevalier se portait aussi bien que possible, qu'il endurait sa détention avec le plus grand courage, que le calme était revenu en lui, et que maintenant il attendait que le juge d'instruction chargé de l'affaire voulût bien lever le secret et lui permettre de communiquer avec vous, avec nous, avec tous ceux qui désirent tant le revoir. Croyez-vous que ce sera pour bientôt ? Nous l'espérons, sans pouvoir toutefois fixer de date. Je puis vous dire confidentiellement que probablement ce secret sera levé sous peu de jours. » Ginetta tendit la main à Philippe. « Monsieur, vous venez par vos simples paroles de me faire le plus grand bien, et de chasser presque cette fièvre qui m'avait enlevé tant de force, tout moyen d'agir, toute confiance, qui même atténuait mon espérance et ma foi en l'avenir. Je vous remercie de tout cœur. » Elle appela le vieux Pietro et joyeusement lui dit « Sais-tu ce que vient de me dire M. Martin Dumas, mon bon Pietro? Sais-tu quelle nouvelle il m'apporte ?»« M. Martin Dumas n'a toujours apporté dans la maison que de la joie. » Ginetta s'écria alors. « M. Martin Dumas vient de me dire que ce n'était pas encore sûr. Mais il paraît que sous peu de jours, très prochainement, tu comprends, on lèvera le secret et que nous pourrons alors voir ton maître, mon cher bienfaiteur. » Peu après, nous prenions congé de Ginetta et nous nous retirions. Pietro nous accompagna jusqu'à la grille et nous dit « Permettez au vieux serviteur que son maître voulait bien considérer comme un père de vous remercier comme il le fait lui-même pour l'heure de joie et pour l'espérance que vous apportez dans cette maison. Vous avez redonné la santé à cette chère enfant. » En route, Philippe me dit « Il est impossible maintenant que l'on ne prenne pas le Martin Dumas que je suis pour le vrai Martin Dumas que je dois être. » Il était impossible, en effet, à moins d'un examen très attentif, de reconnaître en ce brave Philippe le Philippe réel, et de ne pas voir en lui son chef, Martin Dumas. Le vieux Pietro s'y était trompé, la jeune Ginetta, pas un seul instant, n'avait soupçonné que ce ne fût à Martin Dumas lui-même qu'elle parla. Il devait en être ainsi pour bien d'autres. Pendant deux ou trois jours, nous nous rencontrâmes, ainsi que nous le faisions d'habitude, Martin Dumas et moi, soit dans notre restaurant, soit au café. Plusieurs de mes confrères vinrent serrer la main de mon Martin Dumas, lui demander des tuyaux, parler avec lui de diverses affaires, mais pas un ne s'aperçut qu'il avait affaire à un Martin Dumas qui n'était pas le vrai. Naturellement, l'homme aux moustaches noires, l'homme aux moustaches rousses ne manquèrent pas de se trouver derrière ce Martin Dumas-là, et les choses allèrent ainsi. Un soir, Martin Dumas, le vrai, le roi des détectives, se trouva au dépôt. Il y pénétra, pour ne pas être aperçu, dans la voiture cellulaire. Oui, Martin Dumas, le fameux détective, pour passer sous les yeux de ses ennemis sans attirer leur attention, voyagea dans le célèbre panier à salade, qui va dans les différents postes de police de Paris cueillir les malheureux tombés sous le coup de la loi. Martin Dumas, dans la voiture des malfaiteurs, cela ne manquait pas de piquant. Il avait obtenu, lui, cette autorisation de voir le chevalier Fontis et même de dîner en sa compagnie. On servit le repas dans une petite pièce sommairement meublée, mais très confortable en somme, qui servait parfois aux chefs de service, aux avocats, voire aux juges d'instruction, comme salle de travail, pour y rédiger des notes, avoir des entrevues avec quelques prisonniers de marque, ou encore pour les préliminaires d'une mise en liberté sensationnelle. Le dîner fut apporté d'un restaurant voisin, fort connu des journalistes qui ont affaire au tribunal ou à la préfecture de police, apprécié aussi des magistrats, des prisonniers fortunés. Il fut servi par deux garçons qui, vous n'en doutez pas, n'étaient autres que des agents de Martin Dumas. Martin Dumas et le chevalier Fontis parlèrent longuement et librement, se sachant parfaitement en sûreté dans cette pièce, des événements dramatiques de ces temps-ci, et discutèrent sur les suites probables de ce drame, échangèrent leurs opinions. Le dîner se prolongea assez tard dans la soirée, la levée d'écrou ne devant être donnée que le lendemain d'après les dires de Martin Dumas au chevalier. Ils restèrent là comme deux bons amis, à fumer, l'un son cigare, l'autre ses sempiternelles cigarettes, parlant de tout ce qui les intéressait en plus des événements tragiques, rappelant la douce figure et l'affection tendre de Ginetta, le dévouement du vieux Pietro et ma bonne amitié. Puis vers minuit, le chevalier, dont les yeux depuis un moment papillotaient terriblement, dit en étouffant de nombreux bâillements « Mon cher ami, je crois que vous m'avez fait trop bien dîner. Moi qui suis un octambule, moi qui ne me couche jamais avant l'apparition du jour, pour ainsi dire, qui aime le silence de la nuit, le travail fait à la lampe, pour qui la veille, en somme, est un plaisir, je me sens aujourd'hui comme accablé de fatigue, et je lutte contre un sommeil que, ma foi, je ne parviens pas à vaincre. » Martin Dumas dit « Ça n'est pas étonnant. Vous êtes habitué, mon cher ami, à l'air de chez vous, à votre bibliothèque spacieuse, à votre vie active. Et depuis le drame terrible, vous êtes dans une petite pièce, au cachot, en somme. Vous ne pouviez pas faire de mouvement, vous n'aviez pas d'appétit. Vous étiez livré à vous-même, à vos pensées, à votre chagrin. et voici que ce soir vous me faites l'amitié d'accepter mon dîner. Je vous apprends une bonne nouvelle, je vous apporte des compliments de notre ami Courville et le témoignage d'affection de cette exquise Ginetta. C'est vrai. C'est la première fois que depuis ces quelques jours terribles, vous mangez d'assez bon appétit. En effet, cela produit en vous une détente, c'est un fait physique de très bon augure, vous croyez ? Oui, mon cher. Mais puisque vous avez sommeil, je vais vous laisser dormir. Demain matin, je viendrai à la première heure. Votre lever d'écrou sera signé, et vous pourrez rentrer chez vous où, certainement, on vous prépare une petite fête de réception, et on vous attend avec une impatience que vous devez comprendre. Oui, je vais goûter là une des heures de bonheur de ma vie. Martin Dumas ajouta en riant. Et le meilleur bonheur est celui qui vous arrive en dormant. Mon cher ami, allez vous coucher. Bonne nuit, à demain. Le chevalier Fontis tendit la main à Martin Dumas, s'excusa de tomber ainsi de sommeil, et gagna sa chambre où, à peine déshabillé, il fut pris par un sommeil de plomb. Martin Dumas ne quitta pas la prison. Il alluma une nouvelle cigarette et attendit quelques instants dans une pièce à côté. Prosper vint l'y rejoindre. « Ça y est, » dit Martin Dumas à son second, « ça opère. Dans quelques instants, il sera à nous complètement. Avez-vous tout apporté ?» Prosper, du doigt, désigna un énorme ballot dans le coin de la pièce et dit « Tout est prêt. »« Ça va bien, nous n'avons plus qu'à attendre quelques instants. » Peu après, il reprenait « Je crois que le narcotique produit en ce moment son plein effet et que nous pouvons sans crainte continuer l'opération. » Peu après, il allait écouter à la porte du chevalier. Les ronflements sonores qu'il entendit lui semblèrent de bon augure. « Nous pouvons y aller, » dit-il à Prosper. Prosper défit le ballot, en tira une énorme pelisse de chauffeur, une casquette, des gants, et il suivit Martin Dumas dans la pièce réservée au chevalier. Rapidement, tous deux passèrent au chevalier les effets qu'il avait quittés, le chaussèrent. Le chevalier semblait, entre leurs mains, n'être plus qu'un cadavre. Peu après, on mettait le chevalier recouvert d'une pelisse, en tenue de chauffeur, sur une civière et deux hommes, deux employés du dépôt, deux gardiens de prison, emportaient le chevalier endormi, comme s'il se fût agi d'un cadavre quelconque. L'un des deux porteurs était, comme vous le pensez bien, le fidèle Prosper. Le cortège passa devant deux individus qui stationnaient sous des habits de clochard, attendant tranquillement, en bohème parisien, le retour de l'aurore. Et les yeux perçants de Prosper reconnurent, sous ce déguisement, un homme dont il avait vu souvent les moustaches noires dans son voisinage. Cet homme et son compère, qui lui portait une barbe assez abondante, en voyant passer ce cortège funèbre, pensant qu'il y avait là un blessé, un malade ou même un mort, tirèrent leur chapeau et esquissèrent le salut que l'on doit à tout cortège de ce genre. Il fallait être l'élève de Martin Dumas, se pinç sans rire, pour, en recevant ce coup de chapeau de gens qui vous espionnaient, ne pas leur éclater de rire au nez. Le funèbre cortège passa donc ainsi, s'engagea sur le pont au change et se dirigea vers l'Hôtel-Dieu. Après un coup de sonnette, la porte de l'Hôtel-Dieu s'ouvrit et le cortège y pénétra. Peu après, deux hommes, deux gardiens de prison, revenaient avec le brancard vide et regagnaient le dépôt. Quelques instants plus tard, une voiture sortait de l'Hôtel-Dieu, se dirigeait vers les quais, remontant vers la Seine. Cette voiture s'arrêta à la porte de Saint-Mandé. Là, se trouvait arrêté, près de l'octroi, une automobile magnifique de grand tourisme. Un homme en descendit, vêtu en chauffeur, qui portait dans ses bras un autre chauffeur paraissant profondément endormi. Cet homme était Martin Dumas, et celui qu'il tenait dans ses bras, on l'a deviné, n'était autre que le chevalier Fontis. Car il faut ajouter, pour bien goûter la saveur de cette scène, que si devant le brancard dans lequel on emportait le chevalier Fontis se trouvait Prosper, derrière se tenait, supportant dans ses rudes mains les branches de la civière, notre ami Martin Dumas. Et le coup de chapeau qu'allongèrent au pseudo-mort les espions de la bande des X, chargés de surveiller Martin Dumas et le chevalier Fontis, salua très pieusement et le chevalier Fontis et Martin Dumas. Ainsi donc, Martin Dumas, habillé en gardien de prison, de même que Prosper, avait emporté dans sa civière jusqu'à l'Hôtel-Dieu le chevalier qu'il voulait soustraire à la surveillance des X. Dans la civière, il avait mis ses propres effets de touriste. Il n'eut qu'à s'en revêtir avant de monter dans la voiture qui se trouvait dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Il n'eut ensuite, avec le chevalier toujours profondément endormi, qu'à gagner la porte de Saint-Mandé, qu'à installer sur les coussins commodes et pouvant se transformer en lit de sa voiture de grand tourisme, le chevalier qui continuait son somme, puis de filer. Au volant se tenait un des agents de Martin Numa, excellent conducteur, celui-là même qui nous avait amenés à Vilaine, et un autre de ses agents, au visage rasé, au nez proéminent, au menton très accusé, à l'allure d'un parfait domestique anglais. Martin Numa monta dans sa voiture, et après avoir installé avec l'aide de son domestique anglais le chevalier Fonty sur la couchette, s'étendit lui-même sur la sienne et dit à ses agents « Nous pouvons aller ». La voiture s'élança, puis, par des détours, par le bois de Vincennes, prit une route quelconque, roula rapidement. Ensuite, elle s'engagea dans la forêt de Fontainebleau, fit plusieurs stations, écoutant, épiant, et enfin prit la route de Lyon. Martin Numa se fiait absolument au dévouement de ses hommes. Il pouvait donc en toute sécurité, toute tranquillité, dormir, prendre de nouvelles forces pour les besognes qu'il allait avoir à faire désormais